Bonjour, vous êtes sur Radio Campus Paris. Il est 17h30.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, émission spéciale des élèves de 4e C du Collège François Furet d'Antony. Vous allez entendre plusieurs fictions radiophoniques réalisées à partir de textes de différents auteurs qui racontent des parcours d'exil d'adolescents. Cette émission est réalisée dans le cadre du projet Voix d'exil, mené cette année par des professeurs du collège. Les élèves, toute l'année, ont été nourris de connaissances sur la migration, avec un spectacle de Pepito Matteo, une rencontre avec des journalistes de médias Getty News, une exposition du Musée National de l'Histoire de l'Immigration, le cours de géographie sur les migrations, ainsi que plusieurs lectures de romans et BD. Ils ont ensuite mené des ateliers de bruitage avec des animateurs de Radio Campus Paris pour mettre en voix et en son leur fiction. C'est le résultat de cet atelier que nous vous proposons à présent d'écouter.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Voici la traversée d'après le roman de Jean-Christophe Tixier.
Autour de moi, ça crie et ça pleure. Des éclairs illuminent le ciel, révélant l'horreur de notre situation précaire. Des énormes vagues frappent le bateau et le font vaciller dans tous les sens. La mer déchaînée prend le dessus et au loin, dans la brume, je vois des hommes de tout âge perdre l'équilibre et être projetés par-dessus bord. Je sens la peur monter en moi, mais je dois rester plus fort que les autres. Je n'ai que 17 ans, mais c'est à moi qu'on a confié la barre. Les cris se mêlent au bruit de la tempête. Et je prie pour que nous survivions tous à cette nuit infernale. Aucun son ne sort de ma bouche, même pour essayer de rassurer une petite fille qui grelotte à mes côtés. Soudain, l'embarcation émet un craquement sinistre. Tous les passagers hurlent. Une vague plus puissante que les autres soulève le bateau. Il se retourne et les corps sont projetés dans l'eau. Je laisse la mer en furie me porter. Je ne ressens plus aucune émotion. Les bruits des passagers, des vagues, de la tempête s'arrêtent soudainement. Dans l'instant, j'oublie la fatigue, j'oublie la douleur. J'essaie de rester éveillée. Par moments, je somnole, mais je ne dois pas dormir. Je suis désespérée et je ne vois aucune solution. Soudain, des hurlements s'élèvent à l'avant. Je nage vers la proue du bateau. Un homme, debout sur la coque, est en train de secouer une naufragée. Mais qu'est-ce que tu fais ?
C'est à son tour d'aller dans l'eau.
Ce n'est pas ce qu'on a décidé. Les femmes et les enfants restent sur l'épave. C'est leur seule chance de survivre.
Pourquoi j'accepterais de crever, moi ?
Si nous gardons notre sang-froid et si nous restons unis, personne ne mourra.
Arrête de dire n'importe quoi. Tu sais très bien qu'on va tous y passer. Regarde-toi, tu pues la trouille. Tu es déjà mort dans ta tête.
Jal, arrête, par pitié. Essayons de discuter.
Je monte sur l'épave et je lève les mains pour tenter d'apaiser tout le monde.
N'approche pas.
Jal vient de sortir un couteau de sa poche. Il en déplie la lame. J'avance doucement en enjambant les corps pétrifiés. Sous mes pieds, l'embarcation tangue. Une femme se met à crier. Une autre murmure des prières. Jal braque sur moi une lampe torche. Je suis aveuglée. Je me protège le visage avec mes bras. L'homme se jette sur moi. Je fais un pas de côté, mais déséquilibrée, je m'affale sur le bois glissant de la coque. J'arrive à attraper le bras de Jal pour éviter que sa lame ne m'atteigne. J'arrive à saisir Jal au cou. Nous sommes agrippés l'un à l'autre et on roule ensemble sur le bois. On tombe tous les deux à l'eau. Je reviens à la surface, mais je ne vois plus Jal. Le silence est pesant. Je comprends au regard des autres naufragés que nous ne reverrons plus Jal. Il s'est noyé. Selon l'OMI, l'Organisation internationale des migrations, plus de 5300 hommes, de femmes et d'enfants tentent de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe. Les migrants sont en majorité des Syriens, des Soudanais, qui fuient des guerres, des répressions brutales et pour certains le travail forcé. Plus de 2500 d'entre eux ont perdu la vie lors de leur traversée. Ils croyaient tous en un avenir meilleur.
C'était la traversée interprétée par Favor, Émilie, Fadoa et Émilie.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Voici moi, Félix sans papier, d'après le roman de Marc Quentin.
Salut Félix, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça va ?
Salut N'Golo, ouais et toi ?
Moi ça va, c'est quoi ça ?
Ça c'est des patates que j'ai ramenées de mon périple en France.
Ah mais raconte, qu'est-ce qui s'est passé ?
Tu te souviens ? Avec mon père, on faisait les marchés à Abidjan sur les bouts de trottoir. On vendait des sculptures qu'on fabriquait. Les touristes voulaient toujours acheter pour pas cher. J'avais une idée de génie avec les paquets cadets. Envelopper nos sculptures dans des feuilles de bananier. Ça nous a permis de gagner un peu plus d'argent pour partir en France avec ma famille. Malgré tous nos efforts, mon père n'est pas parti avec nous. Nous n'avons pas eu assez d'argent. On est arrivé en France, sans trop de problèmes, dans un cargo qui nous a débarqué au port de Brest.
Mais dis-moi Félix, ta famille s'est fait expulser de France ?
Une fois en France, on s'est installé chez mon oncle et ma tante, qui habitaient à Brest. Je ne les avais jamais vus auparavant. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire bien avant ma naissance. L'oncle Massoudé nous a installés dans sa cave. Nous y dormions seulement. Le reste de la journée, on pouvait aller dans les pièces de l'appartement. Pas question de sortir dehors, c'était trop risqué. Ma mère devait trouver un travail au plus vite, et ensuite des papiers. Pour l'instant, nous n'avons pas le droit d'être dans ce pays. On faisait connaissance avec nos cousins et on leur racontait l'Afrique. Je passais mon temps à leur raconter ce qu'ils avaient envie d'entendre. La forêt d'Afrique, les animaux qui s'y cachent et leurs cris. Mon oncle a fini par trouver un travail pour ma mère, faire le ménage dans un restaurant. Le meilleur moyen d'avoir des papiers est de trouver un travail légal au black pour s'acheter de faux papiers. Après, elle peut trouver un autre travail légal. Attendre la carte de sécurité sociale et après déclarer le vol de ses papiers. Encore des jours, encore des semaines, on restait enfermés dans l'appartement. Seule maman allait à son travail. Un jour, ma tante m'a autorisé à aller à l'épicerie, faire une course. Enfin dehors. Quelques jours plus tard, j'y retourne. Près de la caisse, il y avait un homme, plutôt petit, avec des lunettes et une épaisse moustache. Il m'a posé trop de questions. Il m'a demandé si ma mère travaillait dans le restaurant près du musée. Il savait trop de choses sur nous. Une semaine plus tard, deux voitures se sont garées devant notre immeuble. Ils étaient cinq. Trois dans une voiture de police, deux dans une voiture normale. Je remontais dans la cave. Ma tante m'avait demandé d'aller chercher la théière. J'ai alors entendu la police monter à notre étage.
Ils sont quatre. Une femme, deux adolescents et un enfant de 2 ans. La mère travaille près du musée et l'un des gamins a été appareillé dans le quartier.
Ils avaient découvert notre cachette. Ils sont sortis de l'appartement avec ma mère, mon frère et ma sœur. Les autorités ont découvert notre présence illégale. Ma famille a été expulsée. J'ai évité ce sort et me suis retrouvée seule dans un pays étranger.
Comment tu t'en es sortie ?
Mon oncle Massoudé voulait m'envoyer chez des amis ivoiriens à Rennes pour que la police ne me retrouve pas. Il a fallu que je me débrouille seule. Dans la gare de Brest, je ne savais pas où aller. Je me sentais perdue, seule. J'avais seulement 20 euros en poche. Sur un papier griffonné, l'adresse des amis de mon oncle. Quand le contrôleur m'a demandé mon billet et m'a demandé où étaient mes parents, j'ai bien cru qu'il allait découvrir ma présence illégale. Des ados m'ont sorti du train. Puis il y a eu cette fille, que j'ai appelée Flavie Lavie, car elle m'a sauvé la vie. Elle est venue s'asseoir sur le banc de la gare, elle m'a emmenée chez elle. Je suis restée longtemps dans sa maison. Elle vivait avec son père. Je me sentais bien, j'étais rassurée chez eux. Pour la première fois de ma vie, j'ai dormi dans un lit, le lit des amis de Flavie. Et encore plus génial, j'ai dormi dans un lit seul. Sans les cheveux de ma sœur pour me chatouiller le nez, sans le souffle de mon frère dans les oreilles. Comme à Brest, je ne sortais pas de leur maison. J'étais toujours en situation illégale. D'être toujours enfermé, ça devenait dur. Un jour, avec Flavie, on a décidé d'aller prendre l'air sans que son père ne le sache. On était dans un parc, avec un plan d'eau. Quand un enfant a escaladé le muret d'une écluse, Flavie a crié, mais l'enfant est tombé dans l'eau.
Il n'est pas mort, hein, Félix ?
Non, mais laisse-moi terminer, s'il te plaît. L'homme qui gardait le bébé était tétanisé et ne bougeait pas. J'ai donc sauté et j'ai plongé dans l'eau glacée. J'ai réussi à le sauver. L'enfant s'appelait Valentin. Les parents me couvraient de merci, mais par malchance, un journaliste était dans le coin et voulait faire une photo de moi et de l'enfant pour la mettre dans son journal. Le père de Flavie s'est mis dans une colère noire en découvrant l'article du journal.
Un jeune garçon sauve un enfant de la noyade.
D'autant plus que le journaliste trouve la maison de Flavie. Le père a essayé de le convaincre de ne pas faire son reportage en lui expliquant ma situation de clandestin. Mais les policiers sont arrivés trop vite et ils m'ont embarqué. Je t'épargne les détails, mais grâce au soutien de la population et à mon sauvetage, je n'ai pas été expulsée en Côte d'Ivoire. J'ai obtenu la nationalité française. À cette même époque, j'ai reçu une lettre de ma mère.
Au village, on parle souvent de toi. Je suis retournée travailler au champ de cacao, mais la vie est encore plus pénible qu'avant. Je voudrais que tu ignores notre vie, que tu nous oublies un peu. Tout, plutôt qu'il ne te revienne à l'idée de revenir au pays.
J'étais tellement émue et mon cœur souffrait d'être loin de ma famille. J'ai pris un billet d'avion et me voilà. Adieu Flavie, mais ma famille a besoin de moi. Et voilà, je suis là, N'Golo. Ça fait maintenant 2 ans que je suis rentrée. Toutes les semaines, j'envoie une lettre à Flavie et elle me répond chaque semaine. Le mois dernier, j'étais triste car je n'avais pas reçu de ses nouvelles depuis 2 semaines. L'autre matin, un bruit de moteur a réveillé le village. Un taxi brousse a apparu entre les maisons, suivi d'un nuage de poussière. Soudain, j'ai entendu la voiture freiner. La porte du taxi s'est ouverte en grinçant et j'ai vu Flavie descendre et courir vers moi en m'ouvrant les bras. Si tu savais ma joie N'Golo quand Flavie m'a dit qu'elle allait venir s'installer dans mon pays. Son père avait trouvé un travail ici.
Je suis trop content pour toi, Félix. J'ai trop aimé entendre ton histoire et je suis moins inquiet maintenant que tu m'as tout raconté.
C'était moi, Félix sans papier, interprété par Titouan, Thomas, Baptiste et Raphaël.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Voici l'Odyssée d'Hakim, d'après la bande dessinée de Fabien Toulmé.
J'en peux plus de ces odeurs nauséabondes et ces néons qui m'aveuglent. La migraine ne me quitte plus. J'entends les cris de douleur des nombreux prisonniers blessés qui m'entourent. J'entends des bruits de pas qui résonnent dans le couloir.
Hakim Kabdi, à toi.
Je sursaute et je me lève d'un seul coup. J'ai des frissons plein le corps. Le gardien sort un gros trousseau de clés qu'il met dans la serrure. Il me dit de le suivre. Sur le chemin, un prisonnier me dit
« Bonne chance ».
Une fois dans le couloir, le gardien me bande les yeux et me guide jusqu'à une pièce où il me force à m'asseoir sur une chaise. Là, un homme me demande
« Tu participes aux manifestations dans les rues ?»
Comme je ne réponds pas, un autre homme me donne une grande claque dans la tête. Il commence à me donner des noms de gens qui m'ont vu dans les manifestations et qui m'ont dénoncé.
Taïfir Kachak, Ahmed, Monsieur Shaib, alors à vous maintenant, tu es un opposant du régime de Bachar el-Assad.
Quand ils en ont eu marre de me taper avec les poings, ils ont sorti une matraque électrique. Du sang coule de mon cou.
On sait que tu as aidé des manifestants.
Je ne cesse de leur répéter que je n'ai pas manifesté. Ils me ramènent dans la cellule et je m'écroule par terre devant les yeux choqués des autres prisonniers. Ce traitement si violent a duré 3 semaines qui m'ont paru durer des mois. Puis ils m'ont libéré. Tout devenait de plus en plus dangereux pour nous en Syrie. Au fur et à mesure, la répression s'est durcie, s'est faite plus violente. On a senti que le pouvoir voulait écraser la rébellion et toute manifestation contre lui. Un soir, j'ai eu une longue discussion avec mon père.
Hakim, tu es l'aîné. Tu as déjà connu la prison. C'est devenu beaucoup trop risqué pour toi ici. On ne veut pas te perdre, alors il faut que tu partes.
Mon père avait raison. Un ami m'a accueilli à Beyrouth, au Liban. Je suis triste de quitter mon pays, mais dans mon esprit, ça ne durerait pas longtemps et je serai bientôt de retour parmi les miens. Mais c'est impossible de trouver un travail pour les Syriens. Je décide alors de m'installer en Jordanie chez mon oncle et ma tante et trouver un travail. J'en trouve un rapidement dans une entreprise de nettoyage. Je stresse. J'attends mon bus pour aller à mon nouveau travail. Je monte dans le bus qui vient d'arriver. L'ambiance est très bizarre. Les portes s'ouvrent. Et je suis tous ceux qui vont travailler au même endroit que moi. Alors que je m'habille dans le vestiaire, je me rends compte combien ma tenue pue. Elle sent le plastique chimique, l'odeur est horrible. Les gens autour de moi ont l'air d'avoir l'habitude de mettre ces tenues. Un homme s'approche de moi et me dit
« Tu vois cette machine, tu vas la nettoyer au Karcher. Il faut que ce soit nickel. »
Mais je ne sais pas comment marche cette machine. Je demande de l'aide, mais on me dit
« Tu n'es pas handicapé, tu as des bras et des jambes. Débrouille-toi. »
Finalement, sans contrat de travail, je ne peux pas continuer à travailler. Je réalise aussi qu'être gentil ne fonctionne pas, surtout quand tu es étranger. Je crois que je vais partir, je n'ai aucun avenir ici. C'est impossible pour un Syrien d'avoir une vie stable et un salaire. Un ami d'enfance m'a retrouvé par hasard sur Facebook. Il est en Turquie et me dit qu'ici c'est encore facile de trouver du travail. Je quitte la Jordanie pour la Turquie, j'ai été très bien accueillie à Antalya. C'est ici que je vais rencontrer la femme de ma vie, c'est ici qu'on se marie. Je ne peux pas offrir un beau mariage à Najmé, mais je l'aime et je sais que cela ne la dérange pas de ne pas avoir un mariage du rêve. Je regarde les salles de fête, pas trop chères sur internet, mais rien ne correspond à mon budget. Je vais manger dans une pizzeria. Je monte au 2e étage et je trouve l'endroit parfait pour me marier. On pourra manger pas trop cher avec nos invités. Vous louez cet étage pour des événements ?
Ne l'a jamais fait, mais pourquoi pas ?
Alors je réserve cette salle pour dans 1 mois. Eh oui, c'est ça de vouloir se marier quand on est pauvre. La fête a lieu 1 semaine plus tard. L'ambiance est morose. C'est plutôt un mariage de déprimés dans une pizzeria. Les invités sont des Syriens de la résidence. Je ne les connais pas beaucoup. Les seuls proches sont de la famille de Najmé. On est tous en habit de tous les jours, y compris Najmé et moi. Je me sens coupable d'offrir une fête pareille à ma femme. À la fin de la journée, je lui promets que quand tout sera fini en Syrie, on fera un vrai et beau mariage. Quelques jours plus tard, Najmé m'annonce qu'elle est enceinte. En même temps, ses parents nous apprennent qu'ils vont déménager à Istanbul, où la vie semble meilleure. Nous descendons de les suivre. Il n'y a pas beaucoup d'avantages d'être réfugié. S'il y en a bien un, c'est qu'on n'a pas grand-chose à déménager. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, mais jamais je n'aurais imaginé vivre ce qui allait arriver.
C'était l'Odyssée d'Hakim, interprétée par Ethan, Tristan, Chloé et Sarah.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Voici Liuba, les Roms de la Roumanie à l'Île-de-France, d'après le roman de Valentine Gobi.
Il est 7h du matin et je suis réveillé par les bruits insupportables. Mais que se passe-t-il dehors ? En sortant de la baraque, je vois des policiers alignés. Le soleil frappe leurs casques et leurs boucliers. Je ne souhaite à personne un tel réveil. Un des policiers hurle et tous les autres envahissent le camp de Saint-Denis. Vite, les parents rassemblent les enfants, on ferme les caisses, on noue les baluchons. On prend ce qu'on peut, mais les policiers nous pressent tous dehors.
Allez, vite, tout le monde sort.
Ils nous rassemblent tous ensemble et nous encerclent. J'entends le bruit des machines. Les bulldozers détruisent tout. Je sais déjà comment tout cela va finir. Pendant que la police nous conduit vers le RER, je pense déjà à tout ce qui va arriver. Toutes nos affaires, jouets, boîtes, casseroles et nos baraques en tôle et palettes, tout va être nettoyé et broyé. On sait comment ça va se passer. Ils vont construire à la place quelque chose de plus beau, de propre. Un parc pour les enfants par exemple. Et nous, pendant ce temps, on sera déjà en train de trouver un autre endroit pour dormir. Et nous recommencerons ailleurs, et nous reconstruirons un autre camp. Moi c'est Loubia, j'ai 14 ans. Avant de venir à Paris, j'habitais en Roumanie avec ma famille dans le village de Chișinău. Mais on a été obligés de quitter notre pays. Nous les Roms, on ne nous aime pas en Roumanie. Longtemps, mon père travaillait dans les fermes d'État en Roumanie. Puis le président, Ceaușescu, est mort. Au début, ça a été la fête. Personne ne l'aimait. Mais les fermes ont commencé à renvoyer les ouvriers. Mon père n'avait plus de travail. Un jour, ma cousine est revenue dans notre village. Elle nous a parlé de la France.
Ici, pour 12 heures de ramassage de patates, tu gagnes 3 euros. Moi, je chante dans le RER et j'ai le triple.
On est alors parti en France. J'habite à Paris depuis 4 ans, mais la situation n'est pas meilleure. Je rêve d'une vie où on ne se fait pas expulser. Ici, il faut se débrouiller, se cacher, déménager d'un camp à un autre et toujours tout recommencer. Je passe mes journées dans le RER. On fait la manche. Un jour, alors que j'écoutais de la musique, l'appel de mon frère débouche sur la route. Il se jette sur la route avant que j'aie le temps de faire quoi que ce soit. Sur place, je les découvre étendus par terre. Il regarde son doigt ensanglanté. Un éclat de verre s'y est planté. C'est alors qu'une silhouette inconnue s'approche de nous. À ce moment-là, je ne sais pas encore quelle va devenir la personne la plus importante dans ma vie. Elle s'appelle Jocelyne et elle est infirmière. Elle a soigné mon frère et elle fait connaissance avec ma famille. Mais surtout, avec le temps, elle m'a fait découvrir sa passion, qu'elle est devenir ma nouvelle passion, mon nouveau passe-temps, l'astronomie.
C'était Liuba, les Roms de la Roumanie à l'Île-de-France, interprété par Valentin, Shelly et Gabriel, avec la participation de Johan.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Voici la véritable histoire de Hoang qui risqua sa vie en fuyant son pays, d'après le roman de Claire Astolfi.
Papa me dit de me coucher, mais ce soir-là, je n'ai pas sommeil. Je me lève pour aller boire un verre et, quand je descends les escaliers, j'entends ma famille discuter. J'ai l'impression qu'elle dit des choses importantes. J'entends la voix de mon père.
Ça y est, nous allons partir avec l'oncle Bao. J'ai tout vendu pour payer le voyage.
Je devine qu'il est question de partir aux États-Unis, car c'est devenu insupportable de rester au Vietnam. Mon père est chrétien, il travaille pour les Américains, ce qui était mal vu par le gouvernement en place. Ces mots me font tellement mal.
Nous n'avons pas le choix. Nous avons à peine de quoi vivre. On nous interdit de nous déplacer, de prier, de travailler. Et puis nous sommes censés surveiller et menacer d'être envoyés dans un camp de rééducation. C'est la dictature et on ne peut plus rester.
Je remonte me coucher, mais je n'arrive pas à mieux dormir. Je pense à toutes les personnes qui ne viendront pas avec nous. Mes amis, mes grands-parents. Je ne les verrai peut-être plus jamais. Quelques jours plus tard, nos bagages sont prêts. C'est en pleine nuit que nous quittons notre maison. Mes parents, mes deux sœurs et mon oncle. Mon père nous dit de ne pas faire de bruit car les soldats patrouillent, pas loin d'ici. On se dirige sur les côtes où nous attend un petit bateau de pêche. Nous sommes 38, tous des boat people. On laisse tout derrière nous, on fuit par la mer le régime politique de notre pays. Des larmes coulent sur mon visage, je repense à tout ce que j'ai vécu au village.
Papa, on va aller vivre dans quel pays ?
J'ai des cousins en France qui pourront nous héberger.
La France ? Je suis déçue. Je n'ai pas envie d'aller en France. Les États-Unis, ce serait beaucoup mieux. On continue à naviguer et, soudain, je vois mon père se redire.
La tempête arrive, ne me lâche pas, Wang.
La voile claque sous les rafales de vent et les vagues cognent soigneusement au flanc du bateau. Des trombes d'eau s'abattent sur les passagers et d'un seul coup, c'est le silence.
Un typhon !
Un bateau se soulève et retombe sur le côté. Tout le monde tombe dans l'eau. De l'eau salée entre dans mes yeux, mes oreilles. Je n'ai plus d'air, je m'enfonce. Heureusement, la main de mon oncle saisit mes cheveux et remonte ma tête hors de l'eau. Les vagues se calment et elles nous poussent vers la côte. Bientôt, on voit des arbres et on devine la terre. On est sauvé et je perds connaissance. La voix d'oncle Beau me réveille.
Allez mon garçon, il ne faut pas rester sur la plage, c'est dangereux.
Je demande où sont mes sœurs que je ne vois pas.
Ils ont disparu dans la mer, comme beaucoup d'entre eux. Je suis désolée.
Quelques jours plus tard, un nouveau bateau de Boat People prend la mer. Nous sommes beaucoup trop nombreux et j'ai peur à tout moment que le bateau cède. Les heures passent, mais l'angoisse est de plus en plus grande. Quand, soudain, un homme crie
« Des pirates !»
Il sort armé de machette et nous fixe méchamment. L'un d'eux lance un crochet qui se plante juste derrière moi. Oncle Beau nous sauve encore. Il prend une hache et tranche la corde. Les pirates sont furieux et ils hurlent de rage.
Ah.
Leur bateau s'éloigne. Nous sommes sauvés. Une petite île se profile à l'horizon. Dans le bateau, je me suis fait un copain, Tao. Quelques jours plus tard, on arrive sur une île. Et on nous emmène dans un camp de rescapés. Nous sommes sur l'île de Palawan dans l'archipel des Philippines. Nous sommes entourés par la jungle. Nous y restons un long moment. Un jour, mon oncle nous dit qu'il a fait une demande pour que la France nous recueille. Je râle, pas la France. L'Amérique, c'est bien mieux. Les Américains, ils ont du coca, des gratte-ciels et le cinéma. Mon oncle me dit que je suis bête. En France, ils ont aussi du coca, et ils ont aussi la Tour Eiffel et le château de Versailles. Nous restons plusieurs mois sur l'île. En décembre 1979, oncle Bao lit le journal avec un air content.
Le droit d'asile est enfin reconnu. Les pays occidentaux s'engagent à accueillir les réfugiés du Vietnam. On va enfin quitter ce camp.
Mais une autre idée me passe par la tête. Que va devenir Tao si on quitte l'île? Il va être seul ou aller dans un orphelinat? Oncle Bao me dit qu'il accepte qu'il parte avec nous. Le lendemain, l'avion s'envole. Il fait escale à Manille, la capitale des Philippines, avant de rejoindre la France. Dans l'avion, je tiens la main de Tao et je me fais une promesse, celle de revenir au Vietnam un jour. En attendant, un nouveau pays nous attend, la France.
C'était la véritable histoire de Hoang qui risqua sa vie en fuyant son pays, interprétée par Chloé, Théophile, Benoît, Molly et Da Silva.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Voici l'Arabe du futur d'après la bande dessinée de Riyad Satouf. Sous le régime politique strict et sévère, dirigé par le président Kadhafi, la Libye traversait de grandes tensions. Le premier arrivé était le premier servi, et cela ne plaisait pas à tout le monde.
Riyad, viens manger.
Sinon, moi c'est Riyad, Riyad Satouf. Je suis franco-syrien. Dans notre famille, nous avons déjà beaucoup voyagé. Je suis né en France d'un père syrien qui est venu à Paris pour étudier à la Sorbonne. Ma mère est bretonne et elle a quitté sa Bretagne chérie pour les mêmes raisons que mon père, les études. Entre mes 2 et 6 ans, nous étions en Libye pour des raisons que je ne comprenais pas vraiment.
Papa, on mange quoi ?
Des bananes vertes.
Oh yes !
Je croyais qu'on était en Libye car mon père voulait enseigner là-bas. Plus tard, j'ai compris qu'il voulait développer la culture des enfants libyens. Là-bas, tous les enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école. Et n'ont pas forcément droit à un prof, surtout comme mon père.
Ouais, non, mais c'est vrai que...
J'ai toujours considéré mon père comme un héros. Il m'accompagnait là où j'allais et dans tous mes fous rires. Ma mère et moi, on l'a toujours suivi, pour le meilleur et pour le pire. À chaque fois qu'on a changé de pays, j'ai fait de nouvelles rencontres et découvert de nouvelles cultures. Je me rappelle de ces moments où je jouais à la guerre avec Adnan et Abani. Ou encore du fameux livre vert de mon père qui racontait des idées révolutionnaires de Kadhafi.
Oh là là, mais quel génie cet homme!
Le dirigeant de la Libye à l'époque et de son obsession pour les Mercedes au roues carrées, ça me rendait dingue. J'essayais de lui expliquer qu'une voiture au roues carrées ne pouvait pas rouler, mais il ne m'écoutait pas.
Les roues d'une Mercedes, c'est carré!
N'importe quoi!
Eh mais, comment ne pas parler de son taureau fétiche qu'il posait sur la télé ? Une fois retournée en France, je suis allée à l'école et tout le monde me disait que j'étais surdouée car je dessinais Georges Pompidou à la perfection.
Mais quel enfant intelligent !
Pendant la récré, je trouvais que mes camarades étaient fous. Alors, avant que l'on parte pour la Syrie, mon petit frère est né, Yaya. Quand on est arrivé en Syrie, les premiers trucs qui m'ont marqué, c'est la pollution et les gens qui étaient prêts à en venir aux mains pour avoir un taxi à l'aéroport.
Taxi, Hams, Hams, taxi, taxi. Ah, taxi.
Aussi, la première chose qu'on voyait en arrivant à l'aéroport de Damas, c'était le portrait géant d'un moustachu à grand front, Hafez al-Assad. Après avoir quitté l'aéroport, nous sommes arrivés dans le village de mon père où tous les satouf étaient réunis. Dans la maison de mon oncle, les hommes et les femmes ont été séparés. Mon père est allé dans la pièce des hommes et nous, dans la pièce des femmes. Il y avait d'autres enfants dans la pièce. Ils pleurnichaient. Plusieurs garçons ont commencé à se battre. Je n'avais jamais vu ça. Ils se tapaient dessus. Ma grand-mère m'encourageait à les rejoindre. Alors, je me suis battue avec mes cousins. Je me suis fait mal et ma grand-mère m'a léché l'œil. C'était comme de la magie. Je n'avais plus mal. Aussi, en Syrie, on mangeait une sorte de pain mou qui sentait le moisi. Mais après avoir goûté, j'ai trouvé ça très bon.
Le McDouce, c'est la Syrie.
Aussi, il y avait beaucoup de vent en Syrie. Quand nous avons visité le village, tout était sale. Les villageois n'avaient pas de toilettes dans leur maison, alors les enfants faisaient leurs besoins dans la rue. Là-bas, c'était désertique et dégradé. Les routes étaient en terre et le visage du président était accroché sur tous les murs des rares maisons qu'il y avait. On s'est fait aussi courser par des jeunes qui voulaient nous frapper. Ils prenaient des poses viriles et donnaient des coups de bâton sur le sol. Mon père les a recadrés comme il le faut. Quelquefois, en traversant les rues, on voyait des personnes pendues. C'était horrible. Tous les vendredis soirs, le journal télé diffusait la prière du président. Hafez al-Assad apparaissait à l'écran en chaussettes, suivi par une foule d'hommes en chaussettes aussi. Il récitait une sourate du Coran. Le président lançait le mouvement de la prière. Il joignait les mains et la foule faisait pareil. Il se mettait à genoux en premier et personne ne se relevait avant lui. En Syrie, j'allais aussi à l'école, mais ça me faisait peur car les gens se battaient sans arrêt et victimisaient des pauvres chiens errants. Après, nous sommes rentrés en France. C'était l'été. Nous sommes retournés habiter chez ma grand-mère en Bretagne. Mon père a retiré plein de dollars à la banque qu'il voulait cacher dans sa ceinture. Comme ça, ni la douane française ni syrienne les trouvera.
Cette année en Syrie a été difficile, mais tout va aller mieux maintenant. Avec cet argent, dès la semaine prochaine, je lance la construction de ma villa grand luxe dans mon champ.
On retourne en Syrie ?
Évidemment, c'est bientôt la rentrée. Tu vas pas rester ta vie en vacances. L'arabe du futur, il va à l'école.
C'était l'arabe du futur, interprété par Augustin, Nila, Malo et Louise.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Voici Animal, d'après le roman de Cécile Alix.
Et me voilà sous la banquette d'une voiture qui ne m'appartient pas, conduite par de parfaits inconnus, inconscients de ma présence ou même de mon existence. Ils ne savent pas qui je suis, mais moi-même, je ne suis pas sûre de savoir qui je suis.
Hé, hey, t'as entendu ce bruit, chérie ?
Oh, t'as dû rouler sur un caillou.
Ouf, c'était moins une. J'aurais apprécié qu'Angela me laisse plus de place. Je suis postée derrière la fenêtre de chez cette femme, Angela. Une Italienne qui m'a aidée et qui s'est occupée de moi les jours qui ont succédé notre rencontre hasardeuse. Je me demande bien ce qu'elle fait pour faire un tel boucan. Je ne m'entends même plus penser. France, me dit-elle en pointant du doigt un véhicule. Ah, c'était donc ça. Elle trafiquait la voiture d'un de ses clients pour que je m'y cache.
Monte vite et ne te fais pas repérer.
Ma mère s'avance vers moi, des copies à la main, me rappelant son statut d'institutrice.
Amal, aide-moi à corriger. Tu ne vas pas demeurer sans institution. Que dirait ton père ? Il était tellement fier de toi. S'il savait que tu te laisses moisir sur un matelas.
Laisse-moi tranquille, mon père est mort maintenant.
Je me fiche d'apprendre. Et de toute façon, nous allons mourir nous aussi. Soudain, le lit qui m'a porté, ce qui me semble être les quelques jours après notre dispute, disparaît pour laisser place au noir complet. Maman ? Toujours rien. Au loin, je vois sa silhouette et cours vers elle, en colère.
Pourquoi ne restes-tu pas à l'abri ? Tu veux te faire tuer ?
Ne m'abandonne pas, j'ai besoin de toi.
Miran !
Une à une, mes mèches tombent au sol, quittant mon crâne sous les passages de tondeuse de ma mère. Toujours autant secouée, je la laisse me transformer en ce que je ne suis pas. Une expression de marbre gravée sur mon visage, comme dans la pierre, pour masquer ce torrent de tristesse qui s'écoule dans mon esprit. Pour fuir une guerre qui a tué ma famille, je dois devenir un homme, perdre mon identité, devenir une autre personne.
Tu n'es plus Amal.
Qui suis-je alors ?
Tu es Miran, tu es un homme.
Ta dernière phrase résonne dans ma tête, me faisant prendre conscience de la dureté de la vie et des changements causés par la guerre. N'ayant même pas le temps de faire le deuil de mes frères décédés, je dois quitter ce pays, abandonnant ma mère et ma maison. Je dois tout quitter, car Miran n'a pas de maman, Miran n'a pas de frère, Miran n'a pas de maison. Je suis condamnée à errer sans ambition. C'est Amal qui voulait suivre le savoir de son père, pas Miran.
Paris, pars pour Paris et réalise le rêve de ton père.
D'accord. D'un dernier coup d'œil brouillé par les larmes qui s'accumulent, je quitte mon foyer en direction du désert et opte pour seule compagnie de paroles, les dunes chantantes. Je repense à Ahmed, le passeur. Il était un membre très éloigné de ma famille, donc il ne pouvait pas me faire de mal. Pourtant, ce n'était pas l'envie qui lui manquait. Il était horrible et méchant, faisait payer très cher la nourriture et ne me donnait pas plus à manger qu'aux autres. Il nous rouait de coups, et il y avait la moindre résistance, il nous tirait une balle. Un jour, on s'est disputé et il m'a dit « Si je ne te tue pas, c'est seulement par respect pour ton cousin Sofiane. De toute façon, ta mère était morte quand on est parti. J'ai vu les soldats tuer cette femme qui n'était bonne qu'à jouer les prostituées. Elle n'a que ce qu'elle mérite, cette pauvre idiote !» Aujourd'hui, je quitte Ahmed sous les mélodies du désert qui guident mes pas, en enterrant la petite fille de 15 ans que j'étais il y a bien longtemps maintenant. Les vagues valsent sur l'océan, jouant sur l'orchestre du vent. Il joue merveilleusement de son instrument. Le bateau danse sur les ondulations de l'eau, causant le chavirement de plusieurs migrants. La pluie battante sert de percussion pour rythmer la danse endiablée de l'eau. L'embarcation tient le coup. Je tiens le coup. Malheureusement, mon ami, la personne avec qui je dialoguais est morte. Il était vieux mais très gentil. J'aurais aimé qu'il arrive à destination, car il était la seule personne qui m'y reconnaissait. La voiture s'arrête, mettant fin au grondement constant du moteur.
Bonté divine! Pouh, enfin, c'est pas trop tôt. On est arrivé.
Tu n'imagines même pas les crampes que j'ai.
Et vous n'imaginez même pas à quel point mes muscles hurlent de douleur. J'en conclus que nous sommes arrivés. Sortez vite, s'il vous plaît, j'ai mal au dos. Je n'entends plus personne. Ils doivent avoir quitté la voiture. Je peux sortir? Je pense. Je me lance. La lumière agresse mes iris. C'est donc ça, Paris? Une ville ensoleillée? Mon sac est presque vide. La nourriture se fait rare dans ce pauvre amas de tissu. Il faut que j'y réfléchisse. Mon corps ne tiendra pas bien longtemps sans un repas décent. Dans un profond soupir de désolation, je dirigeais mon regard en direction des panneaux de l'autoroute, afin de me situer. Un jeune garçon m'a dit que je n'étais pas à Paris, mais à Lyon, une ville qui, d'après lui, se situe au sud-est de la France. Dépité, j'avais décliné sa proposition de prendre le bus. Hors de question de revoir des passeurs. Ils ont osé insulter ma mère. Enfin, celle d'Amal. Un son grave parvient à mes oreilles, me tirant de force hors de mes pensées. Un chien, grand, sale et enragé, se dresse devant moi, de toute sa grandeur. Je le vois renifler, avant de me sauter dessus, avec la même force qu'avait utilisée la vie, pour me faire comprendre que la chance ne sourit pas forcément aux audacieux. Je pousse un cri de détresse. J'appelle au secours. Je sens une voiture me percuter.
Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'il fout ce gamin sur l'autoroute?
C'est la dernière chose que j'entends, avant de m'évanouir.
Ouf. Impressionnant ton histoire. Donc c'est comme ça que t'as débarqué à la maison et qu'on t'a adopté. En même temps que Kelb, en quelque sorte. Ouf.
C'était Animal, interprété par Anne-Laure, Capucine, Manel et Lise, avec la participation de Nila, Augustin et Nina.
Vous venez d'entendre les fictions radiophoniques des élèves du collège François Furet. Merci à leur professeur de français, Madame Prunet, et à leur professeur documentaliste, Madame Lefebvre. Merci également aux animateurs de Radio Campus Paris, Pascal et Pierre-Yves. Et surtout, merci aux élèves pour leur investissement dans ce projet Voix d'Exil tout au long de cette année scolaire. Vous pouvez réécouter ce programme en podcast sur www.radiocampusparis.org.